L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou et le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème la parabole du Samaritain avec Jonathan Junior Mambou. Bonjour frère.
Bonjour et bonjour à vous tous qui nous suivez présentement.
Merci pour ta disponibilité, que le Seigneur te bénisse, te rende cela au centuple.
Amen.
Avant d'aller plus loin, je voudrais inviter le frère Jonathan à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur.
Prions le Seigneur, éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps merveilleux que tu nous accordes, que la gloire, l'honneur te reviennent. Sois avec nous, sème ta parole dans nos vies, car elle ne retourne jamais auprès de toi sans avoir accompli ta volonté. Qu'elle accomplisse ta volonté dans le cœur de celui qui écoutera ce message. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Amen. La parabole du Samaritain. Luc 10, verset 30. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. » Jonathan, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui sur cette parabole? Qu'est-ce que le Seigneur t'a mis à cœur sur cette parabole aujourd'hui?
Nous devons rester à Jérusalem, le lieu de protection, le lieu où nous sommes gardés. Gardés comme au temps de Moïse, où ceux qui sont restés dans cette maison où il y avait les sangs, où il y avait l'agneau à l'intérieur, ils ont été épargnés alors que les autres ont perdu leurs enfants. Nous devons rester là. C'est très important de rester dans sa présence pour éviter le désastre qui est arrivé à ce monsieur qui a quitté Jérusalem et qui descendait. Et là, il a été encerclé par des brigands qui lui ont fait beaucoup de mal, ce qui n'est pas une bonne chose. Nous devons rester en restant attachés à lui, car c'est la seule chose utile. Un jour, Jésus-Christ est entré dans une maison. C'était la famille de Lazare, pour ceux qui connaissent cet homme. Et là, Lazare avait deux sœurs, Marthe et Marie. Et étant entré, il va voir, parce qu'il n'était pas seul, il y avait des foules qui l'accompagnaient. Il était là en train d'enseigner la parole. Et en enseignant la parole, l'autre sœur était à la cuisine en train de faire le ménage. Et
Luc,
tout.
C'est Luc 10 à partir du verset 38.
Ok. Nous allons quand même le lire pour faciliter la compréhension. Et l'autre était là, assis à côté du Seigneur, en train d'écouter la parole. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Une phrase terrible. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, il lui a dit ça deux fois. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Mais qu'est-ce que Marie faisait? Marie était juste là devant le Seigneur écoutant la parole. Et Jésus de répondre à Marthe, dit, mais tu t'inquiètes, tu t'agites. C'est ça la vie de beaucoup de gens. Il s'agite pour beaucoup de choses. Et pourtant, il y a ce qui est essentiel. Il y a le plus important. Une seule chose est nécessaire. Donc, toutes choses ne sont pas nécessaires devant le Seigneur. Il n'y a qu'une seule chose qui est nécessaire.
Tout n'est pas une priorité devant le Seigneur.
Oui, parce que tout le monde comprend les choses comme ça. C'est ça le problème. Même dans l'Église de Dieu, tout le monde ne comprend pas les choses comme ça. Tous les chrétiens ne comprennent pas que une seule chose est nécessaire. C'est ce que Marie a fait. C'est d'écouter la parole. Ce n'est pas autre chose. Autre chose, C'est bon pour nous aider à vivre sur terre, mais ces autres choses ne seront jamais plus nécessaires que la parole. Il faudra s'attacher à la parole. Il faudra faire du bien pour la parole. Et nous ne regretterons jamais. Il faudra faire tout pour faire avancer la parole. Il faudra tout faire pour apprendre la parole. Ça, c'est très important. Et là, en restant à Jérusalem, c'est-à-dire en s'attachant à la parole, c'est toujours ça, cette pensée de rester à Jérusalem, nous vivrons les bienfaits de ces choses. Parce qu'en réalité, celui qui s'attache à la parole, je voulais dire, s'attire des bénédictions, s'attire des bonnes choses pour sa vie, mais aussi pour ses héritiers, pour ceux qui viennent après lui. Ça, c'est très important. J'aime bien ce verset de la Bible. D'abord, s'il faut parler de la personne qui s'attache à Dieu, c'est-à-dire qui reste à Jérusalem, qui suit le Seigneur, dans Exode chapitre 23, un verset connu, le verset 25. Ça, c'est toujours pour ceux qui aiment rester à Jérusalem. « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » C'est-à-dire, celui qui sert l'Éternel, c'est aussi d'abord celui qui reste à Jérusalem. Celui qui sert l'Éternel, il garde d'abord sa communion avec Dieu. Parce qu'en fait, beaucoup de gens peuvent dire que servir Dieu, c'est simplement dans un lieu précis. Une église locale, c'est ça servir Dieu. Non, servir Dieu, c'est pas seulement ça. Parce qu'on verra des gens, par exemple, comme Anne, la prophétesse.
Pour aller même avant Anne, oui. On peut lire le verset qui a précédé celui de 25.
Oui.
Exode 23, verset 24.
Oui.
Ça, ce sont les consignes, les preuves même qu'une personne reste à Jérusalem.
Voilà.
Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Et tu ne les serviras point.
Amen.
Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite.
Amen.
Mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. La partie qui m'intéresse, ne pas imiter les peuples que Dieu chasse de Canaan par rapport à leur conduite. Ceux qui sont à Jérusalem ne doivent pas imiter les conduites de ceux et de celles qui sont à Jéricho.
Amen.
Pourquoi ? Parce que le Seigneur est celui qui nous conduit, le Seigneur est le roi de Jérusalem. Alors il fait des promesses. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Bénédiction toujours par rapport à l'obéissance de la parole de Dieu.
C'est très important. Nous devons rester à Jérusalem, et Jérusalem a ses principes, c'est-à-dire la maison de Dieu a ses principes.
On ne fait pas n'importe quoi, on ne vit pas de n'importe quelle manière, on ne s'habille pas de... Tu sais, un jour j'ai entendu un frère dire, qui prêchait, il disait, c'est quelque chose qui m'a marqué, il disait, il y a beaucoup de sœurs dans l'église de Jésus-Christ, dont les garde-robes ont besoin de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Vraiment.
Parce qu'il y a de ces vêtements que nous voyons aujourd'hui...
dans l'église.
Ça ne reflète en rien Jésus-Christ.
Mmh.
En rien du tout.
Mmh.
Et nous ne devons pas imiter les païens dans leur conduite.
Mmh.
C'est vrai que tout ce que font les inconvertis ne sont pas toujours mauvais.
Mmh.
Mais apparemment, ce qui est interdit par Dieu attire plus facilement le peuple de Dieu à vivre dans ces choses. Leur conduite.
Mmh. C'est très important. Même quand... nous sommes hors d'une église locale, nous sommes toujours en train de servir Dieu. On ne sert pas Dieu simplement dans une église locale, mais même en dehors de l'église, quelqu'un peut voir simplement l'aspect extérieur de la personne et il s'est dit, en tout cas, cette dame, en tout cas, je vois qu'elle sert Dieu. Je voudrais un peu m'approcher d'elle pour m'en assurer. Et là, peut-être, en s'approchant, il va découvrir autre chose.
Autre chose.
Parce que l'aspect extérieur frappe. Là, on voit une sœur. Elle est habillée comme les hommes du monde. Alors, qu'est-ce qu'on va dire?
Il y a d'autres, on les met seulement entre... On met 4 à 5 femmes et on ajoute une personne qui se prétend être chrétienne. On regarde les vêtements, on ne sait plus reconnaître qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Qui marche avec Dieu, qui ne marche pas avec Dieu. Qui est chrétienne, qui n'est pas chrétienne. Mes sœurs, vous qui écoutez ce message, ce n'est pas un message pour vous condamner, mais il faut vous réveiller. On doit sentir même dans votre vêtement, dans votre façon de vous habiller, que vous vous habillez aussi pour le Seigneur.
Et ça, c'est vrai. Quand on le dit, c'est pas nous. Hein? La Bible. Pourquoi? Hein? Quelqu'un peut dire, mais vous allez trop loin. Mais pourquoi la Bible doit chercher des précisions pour l'habillement des femmes, comme le disait Pierre, par exemple? On peut le dire en passant, c'est pas mauvais. Hein? Pierre, il a passé son temps. Quelqu'un peut dire, il a passé son temps à chercher à donner des précisions sur l'habillement des femmes. 1 Pierre chapitre 3. Femmes. Voilà. Soyez de même soumises à vos maris afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Sans parole, c'est possible de gagner quelqu'un sans parole.
Sans parole.
Et tu sais, je peux te donner un témoignage, moi. Il y a une sœur qui a été un instrument pour m'amener à m'intéresser un peu aux choses de Dieu. C'était une sœur qui était païenne. Nous n'étions pas loin de leur parcelle et de notre parcelle. Mais quand cette sœur a rencontré le Seigneur, j'ai remarqué des changements.
Elle a complètement
changé. Elle avait changé. Chaque matin, elle allait à l'église. Je doutais. Alors, je me suis dit, je vais vérifier vraiment si elle a changé. Et en vérifiant, je suis allé dans l'église où elle priait. Quand je suis arrivé, j'ai écouté la parole. Elle ne m'a pas prêché. Et d'ailleurs, elle ne sait pas, parce qu'aujourd'hui, elle est en Europe. Elle ne sait pas qu'elle m'avait entraîné là-bas. Mais sa façon d'être, l'aspect extérieur m'a conduit là-bas. Aujourd'hui, je parle du Seigneur. Mais là, est un instrument sans qu'elle le sache.
Tout à fait.
Pourquoi les sœurs font bon de vouloir négliger des choses pareilles? Il dit, et Pierre insiste, il dit, ayant, au verset 3, ayant non cette parure extérieure qui consiste dans des cheveux tressés, des ornements d'or, des habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Qu'est-ce que Pierre voulait dire? Il voulait juste dire, mes sœurs, accordez plus d'importance à ce qui est caché, c'est-à-dire à enrichir l'homme intérieur.
L'homme intérieur.
Je sais qu'une femme cherche à paraître. Ça, c'est vrai. Mais donnez plus.
Il ne faut pas exagérer. N'exagérons pas.
Donnez plus d'importance à la parure intérieure qui est d'un grand prix devant Dieu. Ça, c'est important. Ce qui est d'un grand prix, c'est la parure intérieure. Paul l'a aussi dit, je crois, si je ne me trompe pas, dans Timothée. 1 Timothée chapitre 2. Regardez, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente.
1 Timothée 2, verset 9.
D'une manière décente, avec pudeur et modestie. Ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Si je peux me limiter d'abord par ces deux mots. Décente, pudeur, modestie.
Et modestie.
Est-ce qu'aujourd'hui il y a la décence dans nos églises?
Dans nos façons de nous habiller.
Est-ce qu'il y a la
pudeur?
Voilà. L'amour. Et je me dis, il y a même parmi les enseignantes qui prêchent la parole. Tu vois, mais ça c'est une enseignante. Mais elle s'est habillée sans pudeur. Elle est devant tout le monde. Alors les gens murmurent et disent, mais c'est pas possible. Comment elle peut s'habiller comme ça? Il y a de ces femmes qui est enseignante, mais quand tu vois son maquillage, tu te dis, mais comment elle peut faire autant de maquillage avec exagération?
En fait, qu'est-ce qu'elle cherche?
Elle est vraiment à Jérusalem ou bien elle cherche autre chose?
C'est ce qu'elle cherche.
Et je te dis vrai, ça choque beaucoup des gens. Ça pousse des gens à dire, non, ça ce sont des blagues. Oui? Donc, en fait, c'était en passant pour dire que nous servons Dieu pas seulement à l'église, mais nous servons Dieu même en dehors de l'église. Et moi, je me dis, même quand quelqu'un passe déjà à la télé, c'est une grande responsabilité.
Tout à fait.
Partout où tu passes, on te regarde. C'est vrai qu'on est des hommes, on a des faiblesses, hein, on a des défauts. Mais en tout cas, on doit être toujours conscient, même si je passe pas à la télé, mais je suis chrétien. Tu sais, les non-chrétiens, les païens, ils nous regardent et quand on fait une gaffe, ils disent toujours, voilà les chrétiens. Voilà les chrétiens. Pourquoi?
C'est une grande responsabilité.
Parce que dans leur conscience, ils sont conscients que ceux qui sont à Jérusalem, c'est-à-dire ceux qui s'appellent chrétiens, ils ne font pas n'importe quoi. Ils se disent, moi je peux faire ça, oui, mais toi vraiment, ah non, voilà les chrétiens. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Exode chapitre 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie. Nous devons rester à Jérusalem. Nous vivrons la bénédiction, c'est-à-dire la première grande bénédiction que ceux qui sont à Jérusalem acquièrent, c'est d'abord Jésus-Christ de Nazareth. Il est la bénédiction des bénédictions. Quand Jésus est avec nous, nous sommes déjà des hommes bénis.
Quand nous avons Jésus, nous avons la bénédiction de Dieu.
Oui.
Enfin, on va juste lire, hein. C'est juste une introduction. Mm-hmm. Je méditais sur ça dans Matthieu 3, je méditais sur le 13 jusqu'à 17. Mm-hmm. On va juste lire le 17. Mm-hmm. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis toute ma confiance, en qui j'ai mis tout mon amour, en qui j'ai mis toutes mes bénédictions, en qui j'ai mis toute ma force, j'ai mis toute ma puissance, j'ai mis tout mon pardon. Jésus-Christ est la plus grande des bénédictions que l'homme puisse recevoir de Dieu. Je veux même dire, Jésus est la bénédiction suprême. C'est pour cela que, pour revenir un peu à Marthe et à Marie, c'est pour ça que Jésus dit, ta sœur a choisi ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire moi, et ce que je suis en train de dire.
C'est très important de réaliser la grâce qu'ont ceux qui restent à Jérusalem. Nous devons rester à Jérusalem pour jouir des bénédictions de Dieu, pour jouir de l'assistance de Dieu. C'est très important que, en servant Dieu, nous puissions jouir de ces choses que beaucoup n'ont pas. Hein? Je lis ce texte du psaume 27, verset 25, où David dit ceci, ce verset qui est quand même connu. David, l'homme selon le cœur de Dieu, avait expérimenté beaucoup de choses et il a dit des choses merveilleuses que l'on ne peut oublier. Le verset 25,
27.
Psaume, chapitre 27, verset 25, on s'est trompé je crois. Où le texte dit, j'étais jeune et j'ai vieilli.
Non, c'est le psaume 37. C'est
le psaume 37, voilà, excusez-moi. Le psaume 37, verset 25, ok. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. David dit, ici par cet enseignement, par ce passage, montre clairement que lorsque nous sommes à Jérusalem, la bénédiction de Dieu nous visite, mais elle visite aussi notre famille, elle visite aussi nos descendants, notre postérité. Hein, un peu comme ce verset où Paul pouvait dire à cet homme, le geôlier, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Et c'est vrai, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Et cette lumière entre dans notre famille. Ça, c'est très important. Et au ce verset de David, quand il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain, ça nous propulse aussi à voir ce qu'était Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le véritable juste. Quand il dit, je n'ai point vu le juste abandonné, Jésus-Christ est le juste qui n'a pas été abandonné. Et sa postérité n'a pas mendié le pain. Nous ne sommes cette postérité de Jésus-Christ. Nous ne mendions pas le pain. Le pain, nous avons la vie. Parce que le pain, c'est la vie, la parole. Nous ne mendions pas, nous ne manquons pas. Et pourquoi nous avons hérité de ces choses? C'est parce que Jésus-Christ est resté juste.
Continue au verset 26. Oui. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie.
Amen.
La postérité de Jésus-Christ est bénie.
Oui.
Éphésiens 1, verset 3 dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous sommes bénis en Jésus-Christ.
Et nous sommes bénis en Jésus-Christ parce que ce Jésus-là, il a fait un travail. Depuis qu'il était venu, il est resté attaché au principe de Dieu. Et son attachement au principe de Dieu fait qu'aujourd'hui, nous puissions hériter de ces choses. C'est un exemple pour montrer que nous aussi, si nous travaillons, si nous restons à Jérusalem, faisant ce qui est juste, si nous décidons de ne pas quitter Jérusalem pour aller à Jéricho, nous allons hériter des bonnes choses. Hein, ce n'est pas toujours comme les autres disent, je ne contredis pas ça, pour ceux qui disent que voilà, je suis comme ça, parce que mon père avait fait ceci, alors comme il avait fait ça, les liens me suivent et tout ça, ok, bon. Parce que ton père avait fait ça, ça a ouvert des portes dans ta vie, ok. Mais n'oublions jamais que lorsque nous faisons aussi ce qui est bien, cela aussi a une influence auprès de nos enfants. Ça a une influence dans nos familles. Ça, c'est très important. Nous l'avons vu dans la Bible et il y en aura toujours. Et si ça a été écrit dans la Bible, c'est pour nous montrer que nous aussi, en étant à Jérusalem, en passant des temps dans la prière, en fait, nous sommes en train de s'aimer. En recevant la parole, en partageant la parole aux membres de nos familles, nous sommes en train de s'aimer et ça produit des fruits. Ça produit des fruits pour nous, mais aussi pour nos enfants et nos petits-fils. C'est très important. Je vais lire par exemple l'exemple de Phiné. Allah m'a voulu maudire Israël, il a tout fait et Dieu l'a interdit. Il a tout fait pour maudire et Dieu a changé ses paroles de malédiction en bénédiction. Pourquoi? Parce qu'Israël était dans le lieu le plus élevé, c'est-à-dire il était en communion de son Dieu, avec son Dieu. Mais il s'est fait que Balaam a trouvé une astuce. Balaam avait poussé les femmes de son peuple à aller s'unir avec les enfants d'Israël et les pousser à violer la loi de Dieu parce que Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de pouvoir se marier avec les païens. Et Balaam, connaissant sûrement cette vérité, avait poussé les jeunes filles de son peuple à aller s'unir avec les femmes hébreux, ce qui amena des plaies, c'est-à-dire des malédictions auprès du peuple d'Israël. Et lorsque Moïse vit ces choses, il était tellement irrité, et un des fils, des petits-fils, je peux dire, de Aaron, va se lever pour frapper, je peux dire tuer un monsieur qui, on va le lire pour vous donner une idée, on est dans le psaume nombre 25,
verset 7. Moi, oui. Je lirai à partir du verset 7.
Oui.
À cette vue, Phiné, fils de Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main.
J'aurais bien voulu que tu commences au verset 6.
Au verset 6.
Oui, c'est mieux.
Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils de Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël.
Continue.
C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ça sera pour lui et pour sa postérité, après lui l'alliance. »
De Phiné fait quoi? Dieu dit, dites à Phiné, à cause de ce qu'il a fait, je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pas seulement pour lui, mais aussi pour sa postérité.
Pour sa postérité. Donc, parce que il a agi selon ma volonté.
Donc, en fait, une alliance que lui n'avait jamais
prévue.
Peut-être
même imaginée.
Oui.
Il s'attendait pas à ça.
Oui. Il s'est seulement fâché. Il a dit non, on ne peut pas continuer à mépriser parce que les lecteurs pourront lire le premier verset et continuer. Mais il dit non, on ne peut pas continuer à mépriser notre Dieu. Il s'est levé juste pour frapper. Et Dieu a dit, voilà, il a réagi comme moi je devrais réagir. Je traite avec toi une alliance. Quelle joie!
Une alliance de paix. Et non seulement avec toi, mais avec tes descendants.
Quelle joie! C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il s'est attaché au principe de Dieu. En d'autres termes, il est resté à Jérusalem. À Jérusalem. Si nous restons à Jérusalem, il traitera des alliances pour nous, mais aussi pour nos descendants.
Mon frère, ma sœur, au moment vraiment nous sommes en train d'étudier sur, faire cette petite étude sur la parabole du Samaritain, notre prière est que vous soyez réveillés. Notre prière est que vous soyez, je vais dire un peu comme Finé, que vous soyez révoltés.
Amen.
Dites non, qu'est-ce qui se passe? Les choses sont en train d'aller de mal en pire. Mm-hmm. Pourquoi? À cause du péché.
Voilà.
Il faut que le péché s'arrête dans ma vie.
Voilà.
Il faut que le péché s'arrête dans ma famille.
Amen.
Il faut que le péché s'arrête dans ma nation.
Amen.
Parce qu'au fait, Dieu est en colère.
Mm-hmm.
Et la Bible nous dit que ceux qui ne marchent pas avec Dieu, nous pouvons arrêter la colère de Dieu dans nos familles quand nous, nous prenons des décisions d'arrêter le péché dans notre propre vie.
Amen.
Mon frère, ma sœur, arrêtons de continuer de descendre à Jéricho.
Amen.
Arrêtons de prendre Jéricho comme modèle. La Bible nous l'a dit, nous l'avons lu. N'imitez pas ces peuples, ni dans leur manière de se comporter, ni dans la manière de parler, ni dans leur manière de vivre. Et j'irai même plus loin, ni dans leur manière de manger. Parce qu'ils ont une mentalité de péché. Nous, nous sommes de Dieu.
Amen.
Donc, nous devons marcher, nous habiller, nous comporter comme Jésus-Christ voudrait qu'on s'habille.
Mm-hmm.
Quittez Jéricho et revenez à Jérusalem.
Amen.
Jésus-Christ a gardé ses portes ouvertes. Il a étendu ses mains et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est ce que Jésus-Christ dit aujourd'hui. Le repos est possible en Jésus-Christ.
Amen.
Le frère Jonathan va nous conduire dans une prière de repentance et d'acceptation de Christ.
Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, je te remercie pour cette parole.
Merci,
je recommande ma vie entre tes mains. Assiste-moi, Seigneur. Aide-moi à marcher selon tes principes. Je veux quitter Jéricho et monter à Jérusalem. Cher Saint-Esprit, assiste-moi. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es un Dieu qui écoute les prières. Amen.
Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.
Amen.
Si vous avez fait cette prière, croyez que Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou et le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, la parabole du Samaritain avec Jonathan Junior Mambou. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine.
À la fois prochaine et que Dieu vous assiste et vous aide à rester à Jérusalem.
Amen.
Amen.
L'émission « Venez à Jésus » vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.